La Première, podcast. Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur La Première.
Le projet de la Tour Eiffel est né à l'occasion de la préparation de l'exposition universelle de 1889, date qui marquait également le centenaire de la Révolution française. C'est le 28 janvier 1887 que débutent les travaux pour s'achever 2 ans, 2 mois et 5 jours plus tard. Une vitesse record pour un montage d'une extrême précision. Le 31 mars dernier, la Tour Eiffel fêtait ses 125 ans. Et pour parler de cet emblème de la Ville Lumière, Johan Ducet de la radio-télévision suisse reçoit aujourd'hui dans Monumental, Michel Lyonnais du Moutier. Il est l'auteur du livre « L'aventure de la Tour Eiffel ».
C'était une tour magnifique en fer, se dressant vers le ciel.
C'est aujourd'hui, lundi 6 mai 1889, que le président Sadi Carnot vient inaugurer l'exposition universelle. Il salue le grand ingénieur Gustave Eiffel, à qui nous devons la tour de 300 mètres, attraction principale de l'exposition.
Extrait du film « La fabuleuse histoire de la Tour Eiffel ».
La Tour Eiffel fête ses 125 ans, on va raconter son histoire, mais tout d'abord, pourquoi décide-t-on de construire la Tour Eiffel ?
À l'époque, c'était très particulier. On arrivait à un monde où le métal commençait à s'imposer et le grand débat, c'était peut-on construire la tour de 1000 pieds, la tour la plus haute du monde, puisqu'avant, il y avait l'obélisque de Washington qui était en pierre, qui avait eu beaucoup d'aventures, des difficultés de construction, qui avait été arrêté pendant 35 ans, qui avait été raccourci. Peut-on construire cette tour de 1000 pieds ? On verra peut-être dans le détail que ce sont certains ingénieurs de chez Eiffel qui ont eu l'idée de se dire « au fond, je pourrais peut-être réaliser cette tour ». Eiffel a pris à bras le corps ce projet et a été voir le ministre Lecroy, qui était ministre du Commerce, mais également commissaire de l'exposition universelle, et il lui a proposé ce montage. Et Lecroy était convaincu et donc c'est là où l'aventure a commencé.
Donc c'était pour l'Expo universelle.
Exactement, c'était pour l'Expo universelle, c'était la porte d'entrée de l'exposition universelle de 1889.
Mais il y a eu un appel à projet qui va être lancé pour cette exposition universelle, pour créer quelque chose d'exceptionnel.
Il va y avoir un appel à projet, c'est effectivement exceptionnel parce que c'était le centenaire de la Révolution française, c'était peu après la guerre de 70, mais les textes imposaient, même si vraisemblablement Eiffel était le seul à pouvoir la réaliser, imposaient un appel d'offres. En fait, un appel d'offres un peu bizarre, puisqu'il a été lancé le 1er mai 1886 et les candidats ont eu 18 jours pour répondre. Bon, et on va voir que c'est pas si simple d'inventer une tour Eiffel en 18 jours, à part si on s'appelle Gustave Eiffel, qui travaillait déjà depuis un certain temps sur l'opération.
Il y a eu beaucoup de candidatures malgré ces 18 jours ouverts pour poser un dossier.
Eh bien, c'est tout à fait surprenant parce que malgré ces contraintes, il faut dire aussi que l'appel d'offres décrivait assez précisément la tour de M. Eiffel. Donc la concurrence était déjà un peu verrouillée, si l'on veut dire. Il y a eu pas mal de réponses. Et effectivement, Gustave Eiffel s'est associé avec un architecte, Stéphane Sauvestre. Bon, c'est sûr qu'il était vraiment très avantagé dans cet appel d'offres puisqu'il travaillait depuis plusieurs années, mais ça n'a pas empêché pas mal de gens, pas mal d'entreprises de répondre.
Messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer les résultats du concours organisé pour la construction des bâtiments de la grande exposition universelle qui se tiendra entre mai et septembre 1889.
C'est donc tout naturellement le projet de Gustave Eiffel qui va être retenu.
C'est peut-être tout naturel, mais en fait, ça semble un peu monté pour qu'Eiffel gagne. Et effectivement, il y a eu pas mal d'articles de presse qui ont indiqué y a-t-il le feu au ministère ? Que se passe-t-il ? Les gens dans la presse et ailleurs étaient un peu surpris de la rapidité de décision et finalement d'un peu de ce manque de concurrence finalement.
Gustave Eiffel, il faut le dire, c'était quand même un malin.
Ah, c'est un grand malin. Il avait un jeu de relations considérable qui s'était bâti au fur et à mesure de sa carrière, aussi bien dans le monde politique qu'industriel. Dans le monde financier, il connaissait. Je l'ai même repéré en train de trafiquer un peu les chiffres, puisqu'il a augmenté la rentabilité de la tour dans le dossier présenté aux banques, tout simplement en augmentant le nombre de visiteurs et le tarif qui leur était appliqué, afin d'arriver dans des niveaux de rentabilité qui intéressaient les banques. Bon. C'était un malin, c'est certain.
Ingénieur spécialiste des constructions métalliques, Gustave Eiffel s'est rendu célèbre dès l'âge de 35 ans en réalisant la Galerie des Beaux-Arts pour l'exposition universelle de 1867. Il a également réalisé le pont sur le Douro au Portugal, la gare de Budapest, des ponts et pavillons en Cochinchine, au Pérou et au Chili, le pont sur le Danube, et l'étonnant viaduc de Garabit qui vient tout juste d'être achevé. L'excellence de ses réalisations lui a valu des commandes dans toute l'Europe. Les superbes constructions de fer et de verre et les ouvrages spectaculaires que nous lui devons n'auront pourtant été qu'un préambule, comparé à l'extraordinaire monument de 300 mètres qui allait devenir presque plus fameux que les pyramides d'Égypte ou que la Grande Muraille de Chine.
Et il n'était pas inconnu, il avait quand même à son actif d'autres constructions.
Ah oui, ce que je trouve extraordinaire chez Eiffel, c'est que c'est un homme qui, dans sa carrière, a réussi à réaliser les deux monuments majeurs des deux plus grandes villes du monde de l'époque, c'est-à-dire New York et Paris. Paris, c'est la Tour Eiffel, bien sûr. Mais à New York, c'est lui qui a réalisé l'ossature de la Statue de la Liberté, la Statue de la Liberté éclairant le monde, tel est le nom exact de la sculpture faite par Bartholdi et qui se dresse depuis 1881 à l'entrée du port de New York.
La Statue de la Liberté est un symbole pour ceux qui cherchent un monde meilleur et plus juste. C'est à Paris que ce magnifique cadeau des Français aux Américains achève de se matérialiser sous la forme d'un monument colossal, chef-d'œuvre du sculpteur Bartholdi et de l'ingénieur Eiffel.
Mais en fait, il y a ça, donc ça, c'est sûr que ça donne une notoriété considérable. Mais il a enchaîné aussi toute une série de chantiers prestigieux. D'abord en 1877, le fameux viaduc sur la Douro au Portugal. Puis il est encore très connu, puisqu'on le voit le long de l'autoroute A75 au centre et au sud de la France. Le viaduc de Garabit sur la rivière Truyère, qui a été fini en avril 85. Et d'ailleurs, c'est cette série de chantiers, donc en 10-12 ans, qui se sont faits, qui l'ont permis à la fois de créer les équipes qui, les unes après les autres, chantier après chantier, vont se retrouver, travailler ensemble et qui vont réaliser la tour. Donc c'est très important d'avoir des équipes sur des ouvrages aussi complexes. Et puis d'autre part, progressivement, il a mis en place les technologies. Il est passé de la fonte au fer. Il a ensuite breveté les fameuses poutrelles du viaduc de Garabit qui ont servi à la tour Eiffel. Donc c'est sur ces chantiers qui sont à la fois un objet de prestige, donc il est connu, mais également là où il a rodé toutes ces techniques qui l'ont permis de fabriquer cette tour la plus haute du monde pour l'époque.
Projet d'une tour de 300 mètres déposé le 12 décembre 1884 par messieurs Eiffel et Sauvestre.
Sauvestre est là, oui. Il me faut la signature d'un architecte pour participer au concours de l'exposition.
Mais c'est Coquelin qui l'a dessinée, cette tour. C'est son idée.
Coquelin et Nouguier recevront chacun 100 000 francs et un pourcentage sur les bénéfices que je compte tirer de ma tour.
Ils n'ont pas protesté.
Pour quelques nuits passées à travailler sur les planches à dessin, je pense si mal payé.
Tu as raison. Non, pas à se plaindre.
Surtout qu'ils n'ont fait qu'appliquer mes méthodes de travail et se servir de mes propres inventions. Et les véritables difficultés vont juste commencer. Elles pourront se résoudre que sous ma responsabilité.
Vous l'avez dit, Eiffel n'était pas seul sur ce projet de tour Eiffel, mais est-ce que finalement ce ne sont pas ces ingénieurs qui sont à l'origine de l'idée d'ériger une tour ?
Tout à fait. Contrairement à ce qu'on peut penser, Eiffel n'a jamais inventé la tour. Lui, sans lui, elle ne se serait pas faite, cette tour. C'est sûr qu'il avait les relations commerciales pour vendre ça au ministre Locroy de l'époque. Il connaissait les aspects financiers, on l'a vu dans le détail tout à l'heure. Et il savait organiser les chantiers, puisqu'il l'avait fait au fur et à mesure sur ses différents projets. Mais ce sont ces ingénieurs qui ont trouvé l'idée. Et notamment, c'est le fameux Maurice Coquelin, qui est un jeune et brillant ingénieur embauché pour le viaduc de Garabit, qui a eu l'idée de cette tour la plus haute du monde. Et en fait, pour lui, c'était finalement une pile de ponts, gigantesque certes, sur lequel on montait une tour. Cette pile de ponts à 57 mètres sur lequel on monte donc les deux autres étages. Et en fait, comme il était jeune, même brillant, il s'est appuyé sur Émile Nouguier, qui était le directeur technique de la société de Gustave Eiffel et qui avait particulièrement sa confiance, pour vérifier les calculs. Donc ce sont ces deux individus, l'un au niveau de la conception et l'autre au niveau de la, disons, des calculs, qui ont mis en place cette tour.
Et voici cette fameuse tour de 300 mètres, dont on rêve depuis 50 ans, en Europe et en Amérique. Et nous pouvons même aller plus haut. Il n'y a pas d'obstacle technique majeur.
Contentez-vous de 300 mètres, mon petit Coquelin. N'y passez pas trop de temps. 300 mètres de fer qui ne seront au mieux qu'une sorte d'attraction foraine. Si vous y tenez tellement, je vous avancerai le prix du papier. Et je vous ferai cadeau des crayons.
Alors, il faut dire que leur patron, Gustave Eiffel, n'était pas tellement enthousiaste sur le projet, parce que si vous regardez les premières esquisses, ce sont des dessins d'ingénieurs. Bon, il fallait que ça tienne, il y avait des formes particulières, mais c'était pas beau, pour dire la vérité. Bon, les deux ingénieurs ont compris le message, et c'est eux qui ont approché dans un premier temps Stéphane Sevestre, avec l'accord bien sûr d'Eiffel, pour essayer d'habiller la tour. Et donc c'est quelque part ces trois hommes qui ont fait cette tour. Alors Eiffel, qui était un malin, comme on le disait tout à l'heure, même s'il n'était pas enthousiaste, cet homme déposait un brevet avec ses deux ingénieurs, Koechlin et Nouguier. C'était en septembre 1884. Et il s'est rendu compte, en le présentant à différentes personnes, que ce projet plaisait. Alors il a tout simplement racheté le brevet à ces deux ingénieurs le 12 décembre, vous voyez, très peu de temps après, contre à la fois une somme d'argent et aussi, très intéressant, l'obligation de toujours citer le nom de ses deux collaborateurs à côté du sien. Et tout le monde sait bien entendu qu'il s'agit de la tour Eiffel-Nouguier-Koechlin, dont on n'a plus jamais entendu parler après. Eiffel a gardé, comme souvent d'ailleurs, toute la gloire de ce monument.
Ce chef-d'œuvre de l'industrie moderne, inconcevable il y a seulement quelques années, sera aussi le symbole des progrès accomplis par notre 19e siècle et une préfiguration des prodiges que nous préparent les savants et les industriels. Avec cet édifice véritablement extraordinaire, nous entrons directement dans le futur. La tour de l'ingénieur Eiffel recule les limites du possible, dépasse l'imagination et marque véritablement le premier jour d'une ère nouvelle.
Quand les travaux de la tour Eiffel vont-ils débuter ?
Alors ces travaux vont débuter le 26 janvier 1887. C'est un chantier qui peut paraître long, 2 ans, 2 mois et 5 jours. Mais en fait, en réalité, c'est un temps record. C'est assez incroyable d'arriver à faire la tour la plus haute du monde en si peu de temps. Mais il faut dire qu'à l'époque, les normes environnementales ou techniques, les règles sociales étaient vraiment assez au minimum. Et d'ailleurs, il y a une anecdote que je cite souvent, c'est que lorsque j'en discutais avec la direction de l'entreprise qui gère actuellement la tour Eiffel, il m'indiquait que de nos jours, dans cette durée de 2 ans, on obtiendrait à peine les autorisations de rénovation d'un ascenseur. Donc c'est pour dire que les choses ont vraiment changé.
125 mètres séparent chaque pied de la tour. Les fondations des pieds sud et est sont creusées dans un terrain sec et consistant, loin de la Seine et des infiltrations d'eau.
Quelles vont être les différentes étapes de la construction ?
Alors là, c'est un grand chantier qui commence, effectivement. Donc la première phase, ça va être tout ce qui est terrassement généraux et réalisation de ces 4 énormes piles qui sont en bas de la tour. Et ça a duré 6 mois, entre le 26 janvier et le 30 juin. Et c'était l'occasion de la première difficulté qu'a rencontrée Eiffel sur le sujet, parce que, comme un certain nombre de vos éditeurs le savent, la tour Eiffel est implantée à côté de la Seine. Et on se retrouve devant la difficulté que 2 des pieds de la tour, leurs fondations sont en dessous du niveau d'eau de la Seine, donc dans l'eau. Donc plusieurs techniques, et Eiffel s'est rappelé que quand il était jeune ingénieur, il avait vu des entreprises anglaises appliquer un système de caissons pour aller creuser sous l'eau une des fondations. Comment ça se passe exactement ? Eh bien, il a fait approvisionner des caissons métalliques de 15 mètres de long par 6 mètres de large et d'1,80 m de hauteur. Retenez bien ce chiffre, vous allez comprendre pourquoi. Et sous ces caissons, on injectait de l'air comprimé et on faisait passer les ouvriers à sorte qu'ils puissent à ce moment-là faire du terrassement, donc sous une hauteur d'1,80 m, à la pelle et à la pioche, avec des lampes frontales, et en fait en remontant les gravats avec des seaux à travers une échelle en colimaçon assez étroite. Vous voyez, les conditions de travail étaient assez compliquées. Et ça, c'est donc le moment, un des moments les plus compliqués. On sait bien, d'ailleurs même dans une habitation moderne, que les fondations, c'est ce qui est souvent le plus long et le plus complexe. Alors après, on va passer dans les superstructures, donc monter les grands pieds, puis le reste de la tour. Et là, il faut signaler quelque chose de très important, c'est que Eiffel a mis au point une technique qui est particulièrement performante, parce que d'une part, elle coûte moins cher, et d'autre part, elle permet une grande sécurité des ouvriers, puisqu'il n'y a eu aucun accident pendant la période de montage de la tour. Et cette technique de la préfabrication, qu'il avait déjà mis en place pour Garabit. Cette technique, elle va consister à, disons, à faire des plans extrêmement précis des 18 000 pièces, un peu plus d'ailleurs, qui composent la tour, avec des positionnements de trous qui vont les relier les unes aux autres, positionnés au dixième de millimètre, et en utilisant systématiquement les tables de calcul logarithmiques, ce qui était tout de même assez performant il y a tout de même 125 ans. Et finalement, quand les pièces arrivent sur le chantier, les ouvriers n'ont qu'à les prendre et à poser des rivets pour relier les grandes pièces les unes avec les autres. Bon, donc ça veut dire que il y a très peu de manipulation, et surtout quand les trous ne coïncident pas, les ouvriers n'ont pas d'intervention par eux-mêmes, ils renvoient la pièce à l'atelier.
Le colossal édifice sera formé de l'assemblage de 18 038 pièces calculées chacune avec une précision de l'ordre du dixième de millimètre. 2,5 millions de rivets, dont la moitié posée en atelier, feront tenir le tout.
Et il a fallu faire des dessins de toutes les pièces, soit détaillés, soit généraux, et il y a eu à peu près 4000 mètres carrés de plans, ce qui est énorme.
C'est comme un mécano géant, la construction de la tour.
C'est exactement ça, c'est un mécano géant, donc il faut tout concevoir, tout penser. C'est pour ça qu'il a fallu utiliser 30 dessinateurs pendant 18 mois pour faire tous ces plans. Et ça a permis donc en fait de commencer par monter ces grands pieds de la tour, ces pattes-là. Ça s'appelle en langage technique des arbalétriers, donc ces grands pieds qui montent jusqu'au premier étage. Et là, on arrive à une deuxième difficulté, peut-être la plus complexe du chantier, qui fait dire à la fois aux banques et aux pouvoirs publics qu'une fois que c'est réalisé, c'est-à-dire le premier étage est réalisé, et ben le plus gros est fait. C'est parce qu'il faut aller tout simplement aller claver, rassembler les quatre arbalétriers, les quatre pieds de la tour, sur ce fameux premier étage qui est à 57 mètres du sol. Alors imaginez qu'il y a quand même quatre grandes poutres. Chacune de ces poutres fait 7 mètres de hauteur. Elles sont gigantesques, énormes. Elles font 70 tonnes de poids. Et il faut les assembler, sachant que, histoire de corser encore la difficulté, peut-être vous avez remarqué que les pieds de la tour sont inclinés vers l'intérieur. Ils ne sont pas verticaux. Donc ces poutres étaient en biais, elles aussi. Donc aller assembler ces énormes poutres à presque 60 mètres de hauteur en biais, c'est vraiment un challenge incroyable. Et en fait, l'ajustement, il s'est fait à quelques millimètres près du fait de cette préfabrication, de ce mécano géant dont on parlait tout à l'heure. Alors pour récupérer les quelques millimètres, on n'allait pas tout démonter pour recommencer évidemment, ils avaient mis en pied des arbalétriers des vérins énormes de 800 tonnes et ils tiraient sur le pied pour le redresser. Et dessus des échafaudages, il y avait des petits systèmes de réglage en haut pour le monter ou pour descendre légèrement les arbalétriers. Et ils ont réussi à caler tout ça. Et ça s'est terminé finalement dans de très bonnes conditions, puisque ça s'est terminé le 1er avril 88. Donc une fois que ça c'est fait, après, bon, certes c'est difficile, mais c'est beaucoup plus simple.
Un escalier mène à présent au premier étage. Et Eiffel, ses ingénieurs et quelques amis procèdent à l'inauguration privée de la plateforme. Aujourd'hui, vendredi 13 juillet, Eiffel nous invite à l'inauguration de la deuxième plateforme, à 110 mètres de haut. Il ne s'est passé que 3 petits mois depuis l'achèvement du premier étage, et un peu plus d'1 an depuis le début du montage métallique. La tour pousse de plus en plus vite.
Donc le 15 août, qui est une grande fête en France, on tire un feu d'artifice sur la plateforme du second étage, et puis on arrive au troisième étage le 28 février 89. Et enfin, elle est inaugurée officiellement le 31 mars 89. C'est-à-dire qu'en fait, le conseil municipal, en grande pompe, monte à pied, parce que les ascenseurs n'ont été livrés que le 15 mai, pour, célébrer l'inauguration.
Eiffel organise un somptueux banquet à la suite duquel tout Paris peut admirer un feu d'artifice tiré depuis le deuxième étage.
À ce moment-là, on donne à Eiffel la Légion d'honneur qu'on lui remet, etc. Il y a toute un historique de cette Légion d'honneur. Je crois que personne n'avait la médaille, donc on a dû le demander à quelqu'un qui avait déjà la Légion d'honneur de la prêter pour l'occasion. Enfin, voilà. Donc c'était un grand moment et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel qui se terminait là. Ou peut-être qui commençait, puisque l'aventure de la tour, elle n'est pas encore finie.
Que c'est donc beau, la tour Eiffel.
Voilà, Michel Lyonnais du Moutier, l'auteur du livre L'aventure de la Tour Eiffel, au micro de Johan Ducey de l'émission Monumentale de la Radio Suisse.